Alors, frères et sœurs, il y a des évangiles sur lesquels je préfère prêcher. Préfère prêcher, non. Préfère prêcher, oui. Et celui-là, ça n'en fait pas partie. J'aime pas beaucoup cet évangile parce que je le trouve aride. Hein, quand on voit ce fossé, quand on voit ce riche qui s'endurcit. Et peut-être que je l'aime pas parce qu'au fond, le riche, c'est un peu moi. Et qu'au fond, je vois que, est-ce que de temps en temps... D'ailleurs, la description du riche, Jésus parle aux pharisiens, et la description du pharisien représente avec ses habits de lin et tout ça, ça reprend l'habit des prêtres de l'époque. Vous voyez ? Donc peut-être que je l'aime pas parce que je me dis que je fais pas assez d'efforts pour les pauvres, et qu'au fond, cet évangile, il me met devant moi-même. Vous voyez ? Alors, je préfère l'évangile du chapitre précédent, qui sont le chapitre 15, avec les trois paraboles de la miséricorde. Donc, je vais vous prêcher sur la parabole de la miséricorde. Non. Je ne vais pas me faufiler, je vais prendre l'évangile qui nous est donné. Mais c'est bien de le présenter les deux en même temps. Vous voyez, on a eu les trois paraboles de la miséricorde, parce que sinon, on lit ce texte-là, on dit, mais où est la miséricorde de Dieu? Où est tout cela? Vous voyez? Mais justement, les deux se mettent en parallèle. Un chapitre 15 avec trois paraboles de la miséricorde et notamment ce fils qui a quitté la maison et qui revient et le père lui donne tout son amour. Et là, ce deuxième évangile, ce chapitre 16, qui précède avec l'évangile de la semaine dernière, donc on parlait encore d'un riche, hein, avec un serviteur malhonnête, et là, cet évangile du riche. Alors, peut-être que pour bien articuler les deux, il faut bien entendre. Au début du chapitre 15, il est dit que par rapport aux pharisiens qui étaient scandalisés de l'accueil que Jésus donnait aux publicains et aux pécheurs, Jésus donne les trois paraboles de la miséricorde. Et aujourd'hui, il continue de parler aux pharisiens. Alors j'aime bien vous dire, à chaque fois qu'on parle des pharisiens, attention, parce que les pharisiens, c'est nous. Hein. Les pharisiens sont ceux qui aiment Dieu, qui veulent le suivre, qui prennent du temps pour lui, qui prient, qui jeûnent, qui font plein de choses. Voilà, et donc cet évangile, quand il parle aux paraboles de la miséricorde, ça nous dit attention par rapport aux païens, par rapport à ceux qui sont loin de l'Église, est-ce qu'on se garde cette même attitude de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et quand on entend Jésus qui parle aux pharisiens, pour nous qui sommes peut-être dans l'Église depuis longtemps, on dit mais tiens Seigneur, sur quel point tu m'invites à te convertir et quels sont les points de vigilance? Donc ce texte s'adresse à moi, puisque j'ai la description du riche, là, mais peut-être à chacun d'entre nous, si on sent qu'on aime le Seigneur et qu'on est zélé pour lui. Alors, le Seigneur nous invite profondément à cette attention envers les pauvres et à cette sainteté de justice. Il y a une justice dans le monde, alors on en parle moins bien, on en parle peut-être moins, on parle plus de la miséricorde, mais nos actes ne sont pas neutres. Voilà. Et donc, et si vous prenez le livre sur la doctrine sociale de l'Église, il y a pas mal de pages sur la justice sociale, sur la justice dans le travail, sur tous ces lieux de la justice. Vous voyez ? Et donc, ça vaut le coup qu'on puisse s'y remettre, au fond. Vous voyez ? Parce qu'on peut dire, comme Jésus, ah oui, mais les pauvres, on les aura tous les jours avec nous, très bien, et en même temps, qu'est-ce que l'on fait concrètement pour eux ? Comment est-ce que, aujourd'hui, dans une mondialisation, on dit, ah oui, mais ça nous submerge ? On ne peut pas répondre à tout. Le Seigneur sait bien, il ne va pas nous dire tu n'as pas répondu à tout. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu restes vautré dans ton divan? Ou qu'est-ce qui est à ta mesure? Alors normalement, avant d'entrer dans ces applications concrètes, on est invité, comme dans tout évangile, à voir ce que cela nous dit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit de lui-même dans cet évangile? Bien, peut-être que Dieu n'est pas resté un riche vautré dans le ciel, et qu'il est venu rejoindre chacun de nous, comment le Christ s'est abaissé, comment le Christ a franchi le fossé entre le ciel et la terre pour venir nous rejoindre proche de chacun de nous, et de se rappeler toute l'attention qu'il avait pour les pauvres. Oui, Jésus nous dit dans l'Évangile, le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête. Donc il n'avait pas de palais, il n'avait pas de divan, il n'avait rien. Il se posait la question peut-être le soir, qui va m'accueillir chez lui pour me recevoir, car a priori, à part une pierre, je ne vais pas trouver grand-chose. Alors vous me direz, en Israël, ce n'est pas le même climat qu'ici, donc bon, les hivers peuvent être rudes quand même. Donc d'abord, comment nous contemplons Jésus qui, de sa condition divine, comme dit Philippiens 2, s'est abaissé et s'est fait proche de chacun d'entre nous qui sommes les pauvres du Seigneur. Deuxième élément qu'il peut nous donner, dans cette discussion au ciel entre le riche et Abraham, vous voyez. C'est un texte que je trouve aussi très violent dans la réponse du riche. Dieu dit, mais en fait, ils ont Abraham et Moïse pour découvrir en fait ce mystère. L'Écriture nous donne ces lieux pour comprendre cette charité dans laquelle nous sommes invités à rentrer et comprendre le mystère de Dieu. Et c'est d'une violence extrême quand celui qui est condamné va dire « Ah non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. » Vous voyez ? Est-ce que ça ne nous arrive pas de temps en temps de dire au bon Dieu « Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu agisses, Seigneur. C'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Il faudrait que tu ressuscites les gens d'entre les morts. » Et là, ils croiront. Et Dieu donne une pédagogie. Il dit « Mais en fait, ils ont Abraham et Moïse. » Et nous voudrions peut-être d'autres choses pour que Dieu se révèle à nous. Mais Dieu nous ramène à la parole de Dieu. Et voilà un deuxième aspect sur lequel on peut creuser ce mystère de Dieu et le mystère de notre action dans notre comportement, dans notre vie chrétienne, notre vie humaine même plus largement, puisqu'on ne dit pas forcément que dans cette parabole, le riche était un juif fervent. Mais de se dire, ben en fait, tout homme, au fond, je peux chercher dans la parole de Dieu, hein, eh bien, la compréhension de qui est Dieu et de l'agir de Dieu. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que donne le riche, c'est que dans cette parabole, c'est que Jésus a accompli la demande du riche Lazare, du riche, en disant « Si un homme venait ressusciter d'entre les morts, il croirait. » Au fond, nous avons l'héritage de la parole de Dieu et nous avons le témoignage de la résurrection. Témoignage reçu par les apôtres et témoignage reçu par ceux qui nous ont précédés dans la foi. Tous les chrétiens, et sûrement témoignage que vous pouvez donner chacun d'entre vous. Oui, je le sais, le Christ est ressuscité et j'en suis le témoin. Nous avons un peu les fondements de notre foi, la parole et le message de la résurrection du Christ. Et donc ce que cherche l'homme au fond, nous le possédons. Comment nous le mettons en valeur? Comment nous en sommes les témoins? On voit bien que notre endurcissement, ben, si on n'a pas envie de croire, ça ne changera rien. La preuve, ben, y a encore des guérisons. Cet été, on a accueilli la dernière miraculée de Lourdes. Bon, ben voilà, les journaux en ont fait la une quand même. Tous les journaux à 20h, on dit, eh bien, nouveau miracle à Lourdes. Est-ce que depuis, tous les auditeurs des télévisions se sont dit, ah, je crois, miracle. Je ne sais pas si la grande assemblée s'est tout d'un coup mise à se dire, eh bien, en fait, le Seigneur ressuscite. Vous voyez ? Et on reste dans, oui, peut-être, mais on ne sait pas vraiment, c'était sûrement une guérison psychosomatique, alors que tous les médecins se sont définis pour. Vous voyez ? Donc voilà, le Seigneur nous donne dans cet évangile de quoi méditer sur sa personne. Maintenant, eh bien, comment ça nous invite aussi à nous convertir et à rentrer dans l'action ? Effectivement, les pauvres, nous les aurons toujours à nos portes, et notamment aux portes de nos églises, de nos palais, de ces lieux, de nos temples, puisque nous avons réfléchi toute la semaine sur cette reconstruction du temple. Et nous sommes invités à soutenir la veuve et l'orphelin et à continuer. Et l'Église le fait depuis des siècles et l'Église va continuer à le faire. Le pape François aime beaucoup cette image des gens vautrés dans leur divan. Il l'a repris fréquemment au JMJ après des jeûnes. Messieurs, ne restez pas dans votre canapé avec vos crampons à regarder le match de foot. C'est aussi bien de sortir et de courir et de vous-même de célébrer le match de foot. Disait au GMJ à Rio notamment, au Brésil, forcément, il faut parler football quand on est devant les jeunes du Brésil. Mais pour nous-mêmes, dans notre quotidien, est-ce que sur quel point on peut avancer? J'ai devant moi une assemblée qui a un regard un peu extérieur, s'approche pour beaucoup de la retraite. Bon, ben, rappelons-nous que sœur Emmanuelle, qui a une vie de religieuse depuis longtemps, eh bien, à sa retraite, eh bien, il y a un bouleversement et elle sent un appel nouveau. Quels sont les appels nouveaux pour vous? Et pour moi, quels sont ces gestes concrets que nous pouvons poser dans cette charité dans laquelle nous sommes invités à avancer? Demandons cette grâce, frères et sœurs, de ne pas rester insensibles et de ne pas nous habituer et de chercher sans cesse, comme l'Église l'a fait depuis des siècles, quels sont les nouveaux lieux où le Seigneur nous invite à sortir de notre divan? Quels sont les gestes posés, et même dans le secret que d'autres ne verront pas, sur lesquels nous sommes invités à agir? Et si tout au long de l'année, en méditant les évangiles, nous ne faisons pas à chaque fois mention de la pauvreté et du souci pour les pauvres, eh bien ça doit rester un appel qui habite notre cœur. Que pouvons-nous faire pour nos frères qui sont autour de nous? Le pape François nous donne un mois d'octobre où il nous invite fortement à la mission. Vous voyez, d'habitude, c'est traditionnellement le mois de la mission, mais il le définit comme un mois exceptionnel de la mission. Et pour terminer, et pour nous encourager à cela, effectivement, devant le champ de la moisson qui est impressionnant, j'aimerais juste faire ce rappel de Saint Vincent de Paul que nous avons célébré vendredi. Saint Vincent de Paul, alors je ne vais pas faire un cours de Lectio Divina, vous savez aujourd'hui la mode c'est plus de regarder des DVD que de lire les livres de saints, mais il y a un très vieux DVD que j'aime beaucoup qui est Monsieur Vincent, hein, qui est un film des années 50, qui moi-même, alors que ce n'est pas du tout ma génération, peut-être comme les jeunes, un film en noir et blanc comme ça, et bien que j'ai quand même trouvé extraordinaire, sans effets spéciaux, mais touchant au cœur. Et à la fin de ce film, eh bien, l'acteur, alors que Saint Vincent est en train de mourir, on voit Saint Vincent de Paul qui pleure et qui dit « J'ai si peu fait, j'ai si peu fait, j'ai si peu fait pour les pauvres. » Et quand on voit tout ce qu'il a fait, voyez, effectivement, la tâche est énorme. Et sûrement, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse essayer de... Allez, si on faisait tous comme Saint Vincent de Paul, c'est extraordinaire. Mais si on faisait comme le quart de Vincent de Paul, qui s'est converti lui aussi, hein, qui était un prêtre, qui était dans ses richesses et qui s'est converti à cette pauvreté. Vous voyez, peut-être à mon âge, peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc cette conversion, elle est possible envers des pauvres. J'ai si peu fait. Voilà. Bien qu'on puisse, nous aussi, être saisis, comme le Saint Vincent de Paul a été saisi, et voir à notre mesure, mais sans trop nous dire « Ah, je ne peux pas faire ». Disons plutôt « Seigneur, j'ai si peu fait, qu'est-ce que je peux encore faire ?» Amen.